La collective.
L'émission du collectif féministe du 8 mars.
D'Aubenas. Tous les deuxièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Les voix des femmes qui sont notamment dans le sud global, qui font tourner le monde, doivent être centrales et doivent être le moteur des féminismes. Et il faut que les femmes qui se mobilisent, par exemple parce qu'elles sont femmes de chambre dans des hôtels et qui veulent accéder à des droits, soient au premier rang et aux premières loges des préoccupations de toutes les femmes.
Soulevez-vous, faites ce dont tout le monde a besoin. Vous, vous en avez besoin. Nous, on en a besoin. La génération future qui va arriver en a besoin. Et donc, c'est maintenant.
Démontre que les femmes ne sont pas condamnées à être les premières victimes, mais qu'elles peuvent être des combattantes de première ligne et qu'elles ont toujours joué un rôle d'avant-poste dans les révolutions sociales.
Bonjour, on est de retour à la collective et cette fois, on est au complet. Salut, Vanessa.
Salut.
Salut, Hello.
Salut.
Et salut, Alizée.
Salut. Aujourd'hui, on parle santé. La Sécu fête ses 80 ans cette année, mais la pauvre, comme les personnes âgées de manière générale, elle est un peu malmenée. On ne vous apprend rien en disant que la mise en place de la Sécu a été une véritable révolution sociale après-guerre. Elle posait comme principe la solidarité. On cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Les individus ne sont plus isolés face aux aléas de la vie, maladies, vieillesse, etc. Et son fonctionnement repose au départ sur les cotisations sociales. Une partie de notre salaire est versée dans ce pot commun qui sert ensuite à financer la santé, la retraite, le chômage, etc. Mais depuis les années 80, les cotisations baissent, notamment à cause des allègements sociaux, et à la place, d'autres sources de recettes provenant de l'État viennent compenser ce manque à gagner. L'État, légitimé par ce changement de financement, occupe de plus en plus un rôle décisionnaire et d'orientation budgétaire, en même temps que les usagers et usagères voient leur pouvoir de pilotage et leur participation aux décisions reculer. Les orientations de la sécurité sociale sont débattues lors du vote du fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont on a entendu parler et qui cette année est plutôt de style austéritaire, en plus de ne pas avoir été vraiment débattu à l'Assemblée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on parle santé, on parle choix politique. Et que là aussi, on a du pain sur la planche, car notre système public est non seulement en souffrance, mais il participe aussi à créer des discriminations. Cet idéal d'un système de santé universel, il est donc encore à construire. Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes et tous le même accès aux soins. On peut commencer en regardant le plus concret, le plus visible peut-être, l'accès matériel. En habitant en Ardèche, on sait que les mots « déserts médicaux » ont une réalité bien concrète et des impacts sur le long terme. Les maladies sont dépistées plus tard, elles sont donc plus difficiles à soigner, etc. Et cet accès matériel n'est pas le même selon nos situations financières et administratives. Possibilité ou non de se déplacer un peu plus loin pour un rendez-vous médical, passage par le privé pour réduire les temps d'attente, ou encore soins non remboursés par la Sécu. Il y a donc des facteurs très concrets qui peuvent rendre difficile l'accès aux soins, et puis il y a aussi tout ce qui est plus insidieux, plus discret. Alors pour commencer, une petite chronique MST.
Et oui, aujourd'hui je vous emmène pour une petite balade gynécologique et médicale dans notre belle cité albenacienne. Première escale, 2009, je suis installée à Aubenas depuis 2 mois et on est en pleine épidémie de grippe A. Avec ma grippe et mes 42 fièvres, je vais voir un médecin et je profite de la consultation pour lui parler mycose vaginale. Au moment de partir, après avoir ouvert la porte donnant sur la salle d'attente remplie de patients et patientes en train de s'étouffer dans leur glaire, il me gratifie d'un « Et mademoiselle, le meilleur moyen pour ne pas attraper de mycose, c'est encore de ne pas laisser traîner son derrière n'importe où. » Alors à cette époque, je faisais pas encore de chronique radio sur mes MST. Je ne l'ai pourtant pas vécu comme la honte de ma vie, mais ça aurait pas forcément été le cas 5 ans plus tôt. Ça aurait alors pu m'amener à ne plus parler mycose avec des soignants, mais plutôt avec Google, qui a une fâcheuse tendance à recommander de les soigner en s'enfonçant des gousses d'ail dans le vagin, plutôt qu'en utilisant des crèmes fongicides. Et ça m'a quand même assez marqué pour que je me refasse très souvent cette scène dans ma tête. J'aurais relevé le front, lui aurais jeté un regard dédaigneux, et asséné « Monsieur, vous devriez relire votre Larousse médicale. Les mycoses sont un déséquilibre de la flore vaginale, généralement dû à la prise d'antibiotiques, à une hygiène esthétique excessive, au stress, à la fatigue, mais pas à la sexualité. » Et puis on ne dit plus mademoiselle, mais madame, boomer. L'autre option des scénarios dans ma tête, c'était de déposer du caca devant sa porte. Deuxième escale. On est en 2021. Je dois consulter une gynéco. C'est tendu d'avoir un rendez-vous, alors je vais chez la première qui a des dispos. Je voulais profiter du rendez-vous pour avoir des infos sur les modes de transmission des différentes MST et IST. J'ai bien compris les risques de transmission du VIH dans les rapports hétéros, avec pénétration pénis dans vagin. Mais ça, c'est une petite partie de la sexualité, et le VIH n'est pas le seul truc sexuellement transmissible. S'il n'y a pas de pénétration, est-ce qu'il y a aussi besoin de se protéger? Et pour le sexe oral, est-ce que les risques sont vraiment moindres? Et est-ce que ça change quelque chose pour la prise de risque de mettre sa bouche sur une vulve ou sur un pénis? Et les digues dentaires, ça protège de quoi exactement? Bref, plein de questions. J'ai oublié la première que j'ai posée, ce dont je me souviens, c'est que dans sa réponse, la gynéco a utilisé le terme « kékette ». Elle a enchaîné en me disant « Vous savez, avant il y avait un herpès de type 1 sur la bouche et un herpès de type 2 en bas ». Mais maintenant, avec les nouvelles pratiques sexuelles, bah tout se mélange et on sait plus. Bon voilà, j'ai arrêté mes questions, je me suis dit qu'une soignante qui disait kékette et considérait cunnilingus et fellation comme de nouvelles pratiques sexuelles avait peu de chances de pouvoir répondre à mes questions. Vous connaissez maintenant ma passion pour le fait de raconter ma vie MST incluse sur les radios locales, mais en vrai si je raconte ça, c'est quand même parce que ça parle bien d'un accès inégal aux soins tout ça. J'aurais rencontré le médecin « Faut pas laisser traîner ses fesses » plus jeune, peut-être que j'aurais jamais pu parler de sexualité avec un docteur. Quand j'ai rencontré la gynéco « Nouvelles pratiques sexuelles », j'avais un réseau queer et féministe autour de moi qui a pu m'aiguiller vers les consultations du Cégid à l'Hosto d'Aubenas, avec une médecin géniale qui a su répondre à mes questions. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ce réseau? Et ça ne serait pas une forme de discrimination dans l'accès aux soins, ce que m'ont fait les docs « Nouvelles pratiques sexuelles » et « Laisse pas traîner tes fesses » Et qu'est-ce qu'on qualifie exactement de discrimination dans le soin? On écoute la défenseure des droits, Claire Hédon, en donner la définition.
Permettez-moi quand même aussi, je pense que c'est quand même le point de départ, de définir ce qu'est une discrimination en droit. Il faut trois conditions pour qu'il y ait une discrimination. Il faut d'abord un traitement défavorable dans une situation comparable entre deux personnes. Il faut que ce soit dans un des domaines prévus par la loi, c'est-à-dire par exemple l'emploi ou l'accès aux biens et services, dont justement l'accès à la santé. Et la troisième condition, c'est dans un des critères prohibés qui sont le sexe, l'origine, l'orientation sexuelle, la particulière vulnérabilité économique, le handicap, l'identité de genre, la santé, voilà. Avant que le rapport ne soit présenté plus en détail, je voudrais illustrer mon propos de façon concrète. Tout d'abord, pour souligner que ce rapport a permis de mettre en avant que dans les parcours de soins, la discrimination se traduit par des formes multiples. Et la forme la plus connue, hein, c'est le refus de réserver un créneau de consultation médicale pour un patient qu'il sollicite. Mais le traitement différencié peut aussi prendre des formes plus insidieuses. Et ça ne se limite pas à l'entrée dans le parcours de soins, ça peut intervenir dans tout le parcours de soins. Et je voudrais souligner que les actes discriminatoires interviennent en raison de nombreux motifs. Le sexe, hein, le fait d'être une femme, la situation familiale, être célibataire, en couple ou sans enfant, l'état de santé, notamment par exemple le fait de vivre avec le VIH. On a eu des situations particulièrement tragiques avec des refus dans des cabinets dentaires, le fait d'être atteint de troubles psychiques, hein, de nouveau refus de soins d'un enfant atteint de troubles autistiques, l'apparence physique. Voilà, je ne peux pas vous les citer tous, mais on voit que ça peut toucher un très grand nombre de critères de discrimination. Et évidemment, j'ai envie quand même d'insister sur celui de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des personnes, que nous essayons de rendre visible, mais qui est souvent difficile à percevoir.
Pour les formes que ces discriminations peuvent prendre, ça va des refus de soins, de donner un rendez-vous ou un traitement, à la disqualification de la parole de certaines personnes, en passant par des difficultés matérielles d'accès à certains locaux, ou encore les barrières administratives particulièrement fortes, par exemple quand on n'a pas de papier. Et ces conséquences peuvent conduire à des retards de soins engageant jusqu'au pronostic vital, des errances médicales ou des renoncements de soins. Hello, qui sur son temps libre est aussi infirmière, nous parle de son expérience.
Décidément, à chaque fois que j'évoque mon métier de soignante au sein de l'émission, c'est pour parler des violences que l'on subit ou que l'on fait subir. Promis, un jour, je ferai une chronique sur les petits bonheurs et grandes satisfactions du métier d'infirmière. mais ça me semblait nécessaire de témoigner sur le sentiment de déjà-vu et sur les réalités rencontrées sur le terrain au sujet des constats et analyses dont il est question dans l'émission. Il m'a pas fallu exercer très longtemps pour entendre parler du syndrome méditerranéen. Quand j'ai entendu ce terme, je me suis d'abord dit que j'étais décidément trop sortie pendant mes études et que j'aurais dû plus réviser puisque j'avais loupé ce syndrome. Il était présenté comme quelque chose de très scientifique ou objectif. J'ai demandé discrétos à une collègue de quoi il s'agissait et on m'a répondu « Bah tu sais, les personnes du pourtour méditerranéen ont tendance à théâtraliser, à exagérer un peu leur douleur ou leur ressenti. » Bon, j'ai mis très peu de temps à comprendre que par pourtour méditerranéen, il ne s'agissait pas de tout le pourtour, puisque rares étaient les personnes cannoises visées par ces remarques. Et que par personne, par le terme de personne, on visait surtout les femmes. Les clichés autour des femmes juives étaient aussi répandus, ainsi que le terme d'hystérique, à partir du moment où l'expression de la douleur, des émotions ou d'un désaccord avec l'équipe dépassait un certain seuil. Alors j'aurais aimé vous dire que ces réflexions étaient aussitôt réprouvées et suivies d'un tollé collectif, mais franchement, au mieux on haussait les épaules en se regardant avec les collègues, l'air de dire « oui, on sait comment il est », au sujet du médecin ou autre dont émanait la remarque. Et je dois dire qu'il m'aura fallu me politiser et me forger une analyse militante pour y voir autre chose qu'un comportement individuel répréhensible. Et vu que le travail de soins est un travail d'équipe, ces préjugés impactent forcément la qualité des soins dans leur globalité, même si une partie de l'équipe ne les partage pas. Il m'aura fallu des années aussi pour réaliser qu'à aucun moment de mes études d'infirmière, il n'était question des personnes intersexes, comme si elles n'existaient pas. Il m'aura fallu des années et le choc d'un chiffre. Elles sont autant de personnes que de personnes rousses, une personne sur 60 environ. Mais parce qu'elles remettent en question une vision binaire de la société, elles sont invisibilisées. Mes études remontent aux années 2000, j'espère que depuis le contenu a évolué. Sûre que j'aurai un œil plus critique dessus maintenant. On apprend à soigner dans un système discriminant et inégalitaire, mais aussi capitaliste. Ou devrais-je dire au service d'un système capitaliste. Parce que c'est de lui qu'on prend soin en premier. Il est question de rentabilité, d'économie, et de maintenir les institutions telles quelles, même si ça se fait aux dépens de certaines personnes. Alors pas n'importe lesquelles, bien sûr, comme dans la société, il y a des privilégiés et des opprimés, des budgets plus amputés que les autres, et des services plus en souffrance que d'autres. Et il faut quelques années d'expérience ou être en capacité de recul pour se rendre compte que nos années d'études nous forment à être un bon petit soldat au service de l'institution, qui va plus remettre en question les comportements individuels que le modèle de société dans lequel on évolue. Je peux pas m'empêcher de bondir quand je vois les intitulés de formation autour de l'augmentation des cas de cancer ou maladies neurodégénératives, qui évoquent pléthore de facteurs de risque individuels mais jamais les causes environnementales. C'est plus facile de montrer du doigt celui ou celle qui a mal mangé, trop fumé, trop bu, pas assez pris soin d'elle, que de remettre en question les perturbateurs endocriniens, les pesticides, la pollution de l'air, et surtout de remettre en question les manières très inégalitaires dont on y est exposé. C'est plus facile de montrer du doigt des personnes qui profiteraient du système plutôt que des orientations budgétaires douteuses. La vérité, c'est que sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui renoncent aux soins ou ne savent même pas qu'elles peuvent y avoir accès que d'abus, entre guillemets. Que ça devient tellement complexe de se faire soigner, en particulier dans les déserts médicaux, qu'un commentaire désobligeant, une remarque humiliante ou un obstacle tel que l'impossibilité de faire garder ses enfants le temps d'un rendez-vous conduit au renoncement.
Meggy Biodor, Naomi Muzenga, Yolande Gabriel, Aïcha, une adolescente de 15 ans, sont décédées ces dernières années à cause de ce soi-disant syndrome méditerranéen dont parlait Hello. Toutes ces femmes n'ont pas été prises au sérieux par le SAMU, par les pompiers et sont décédées rapidement après. Ces quelques cas ont été médiatisés et cela a permis de mettre à jour des dysfonctionnements mortifères. Mais souvent, c'est d'abord le délabrement du système de santé qui est évoqué pour expliquer ces défauts de prise en charge. La situation critique de l'hôpital public a en effet des répercussions très concrètes sur la qualité des soins. Mais on sait aussi qu'à situation égale, les patients et patientes ne sont pas traités de la même manière.
On a donc publié dans une revue internationale l'année dernière un article dont la méthodologie était simple. En fait, on a écrit un cas clinique de douleur thoracique, c'est-à-dire on a écrit un cas courant de douleur thoracique. Quelqu'un qui vient pour douleur thoracique, qui a une douleur à tel endroit, avec une pression artérielle à temps, une saturation à temps. Donc vraiment tout le temps le même cas clinique. Et on l'a envoyé à plein de soignants qui travaillaient aux urgences en disant « dites-nous le niveau de priorité que vous mettez à ce cas ». Mais par contre, on a assorti le cas clinique à chaque fois d'une seule image parmi celles-là, qui sont des images générées par intelligence artificielle d'un patient qui a mal dans la poitrine, qui est debout, qui est habillé en blanc, enfin vous le voyez, qui met la main sur la poitrine. On a standardisé même le fond qui est l'accueil d'un service d'urgence. Et évidemment, les gens qui répondaient ne connaissaient pas l'objectif principal de l'étude et ils évaluaient la gravité en fonction du cas clinique qui était le même pour tout le monde, mais ils avaient cette fameuse image qui était associée. Et dont on savait qu'elle pèserait sur leur évaluation. Et donc, que nous dit le résultat principal de cette étude, si on regarde à gauche? Quand vous envoyez un cas clinique standardisé, que le même tout le monde, à des soignants des urgences, eh ben, ils vont le classer dans 49% des cas comme une urgence vitale si c'est associé à une image de femme, et dans 62% des cas si c'est associé à une image d'homme. Ce qui fait une vraie différence pour un cas clinique qui est le même. Et puis, vous avez pareil sur les images en fonction de l'apparence ethnique. Et là, il y a une différence qui est significative pour l'apparence noire. C'est-à-dire que les gens qui avaient un cas clinique associé avec un personnage d'apparence ethnique noire le jugeaient moins grave que ceux qui avaient sur les autres apparences ethniques. Et l'intersectionnalité, c'est que si on regarde les gens qui ont eu une image de femme noire par rapport aux gens qui avaient une image d'homme blanc, ben vous voyez que dans 42% des cas, quand il y a une image de femme noire, ils le classaient comme de l'urgence vitale, alors que c'était 63%, donc la moitié de plus, hein, 50% de plus pour l'homme blanc. Et donc la conclusion de cette étude que nous avons faite, c'est qu'il y a un impact de l'image et de l'apparence de genre et ethnique sur notre raisonnement intuitif et donc sur l'évaluation de la gravité.
Bon, on va faire un peu d'invisibilisation. C'était pas volontaire, mais on a oublié de noter le nom du médecin que vous avez entendu. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un médecin conférencier du CHU de Montpellier qui a lancé une étude sur le racisme et le sexisme dans le soin. Et on le remercie. Comme l'explique bien Charlotte Puisieux, psychologue, docteur en philosophie et militante antivalidiste, les moments de crise agissent comme des révélateurs des discriminations. Les biais racistes, sexistes ont des conséquences plus grandes quand l'hôpital public se pète la gueule. Une pandémie comme celle du Covid-19 peut faire ressurgir une logique de hiérarchie dans la valeur accordée aux vies humaines.
Oui, parce que quand même, dans la question du validisme, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une hiérarchisation
ouais.
des vies. En tout cas, voilà, dans notre
société. Des corps et
actuelle,
des vies, oui.
Comme vous dites, on l'a vu de façon flagrante lors du coronavirus.
Exactement.
C'est que de toute façon, aujourd'hui, en tout cas, la personne handicapée a une vie qui vaut moins que la personne valide. Alors, ça se traduit dans plein de choses du quotidien. Et voilà, lors du coronavirus, on l'a vu de façon très violente avec ces circulaires qui sont passées, qui disaient que les lits de réanimation ne devaient pas être occupés par des personnes handicapées. Donc, y a une hiérarchie. C'est le validisme, c'est ça, c'est hiérarchiser de toute façon les vies humaines.
À cette occasion, Charlotte Puisieux avait aussi écrit sur son blog « Je me rappelle d'une discussion pendant mes études de psycho avec un ami qui m'avait dit en toute honnêteté « Tu sais, si un jour on connaît une crise, c'est toujours les plus vulnérables qui paieront en premier. » Il avait ajouté, en me regardant droit dans les yeux, « Les personnes handicapées seront en première ligne. » Je ne vais pas dire que ce fut une révélation, car je le savais au fond de moi, mais ainsi formulé, j'avais quand même eu un choc. La preuve, 10 ans après, je me souviens très bien de cette scène. Tout le monde paye aujourd'hui très cher le démantèlement de l'hôpital public, la suppression des lits, des postes, le manque de moyens qui auraient pu sauver des milliers de gens. Mais nos vies, celles des personnes handicapées, comme celles des personnes trans, des travailleuses du sexe et autres individus précaires, sont les premières à être sacrifiées dans cette course à la privatisation et à la rentabilité. Course totalement contraire à l'idée même d'une santé accessible à toutes et tous, qui est censée être la base de notre société, un bien commun.
Résoudre la question des moyens de l'hôpital public est fondamental, mais ne suffira pas à résoudre les inégalités de santé. Il faut changer de logique. Et concrètement, pour changer tout ça, on commence par chaque matin dire merci à son corps, lui dire combien on l'aime. Ensuite, on enchaîne sur la routine détox du petit-déjeuner. Huile de pépins de pamplemousse, jus de choucal saupoudré de graines de chia, puis yoga, pilates et sophrologie. Mais non, on déconne. C'était juste pour introduire les vulves assassines.
Bien-être, bien-être, avec ou sans gluten. Yoga et je t'aime, yoga et je t'aime. Bien-être, bien-être, avec ou sans gluten. Yoga et je t'aime, yoga et je t'aime. Yoga et je t'aime. yoga et je t'aime, 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 yoga et je t'aime. Siro sur eau, graines de pavot, graines de vie, germe dans mon cœur équilibré, le yin, le yang, réconcilié, bain de bonheur, je suis mon soleil intérieur. Je suis mon soleil intérieur.
Aïe, 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 aïe. On imagine déjà les courriers des auditeuristes furieuses devant tant de moqueries à l'encontre des graines de chia. Et ce, en Ardèche, la terre promise du bien-être. Bon, en vrai, on n'a rien contre le yoga et les pépins de pamplemousse. Et bien sûr que prendre soin de soi a du sens quand on parle de santé. Mais ici, ce dont on a envie de vous parler, c'est de solutions collectives qui visent à transformer radicalement le monde de la santé. Et bon, bah, on a un plan d'action en trois parties. La première, c'est de former les soignants et soignantes et l'entourage professionnel. La deuxième, c'est de considérer la santé comme un enjeu global. Et la troisième et dernière partie, c'est penser la lutte révolutionnaire à partir de la santé. Voilà, facile. On va vous détailler un tout petit peu ce qu'on entend par là quand même.
Ok, donc former les soignants et l'entourage professionnel. Du point de vue des soignants et soignantes et de tous les professionnels qui bossent en lien avec les soins, c'est super important de prendre conscience de l'existence de ces biais discriminatoires dans un premier temps. Parce qu'en prendre conscience, c'est devenir vigilant ou vigilante et pouvoir entamer un travail de déconstruction de ces biais. Et si on parle d'une palette large de professions, c'est parce qu'il existe pas mal de métiers qui ne sont pas considérés comme des métiers du soin, mais qui vont se retrouver au contact d'usagers et d'usagères sur un parcours de soins et dont l'approche est décisive. On pense par exemple au secrétaire médical, personnel d'accueil, personnel administratif, etc. Il existe pour tous et toutes ces professionnels de santé, ces professionnels tout court, des outils de sensibilisation et de lutte contre les pratiques discriminatoires. Alors dans les outils de lutte, la formation joue un rôle primordial, mais Aussi le fait d'utiliser des échelles ou des grilles pour diagnostiquer, évaluer et orienter de la manière la plus objective possible. Que vous soyez professionnel ou usager ou usagère, on vous conseille d'aller faire un tour sur le site obs-med.com. C'est un observatoire féministe des violences médicales qui a vu le jour suite à l'enquête concernant le décès de Naomi Musenga. Il y a toutes sortes de ressources et d'outils de lutte contre les discriminations. Et elles font un travail collaboratif avec d'autres assos d'usagers, luttant contre le racisme, la grossophobie, le validisme, l'homophobie, etc. Et on peut y trouver des liens vers des formations, vers des guides de pratique, des échelles d'évaluation, des listes de médecins safe, le parcours détaillé de quoi faire si on est victime. Le planning familial localement aussi organise souvent des formations à l'usage des professionnels qui ont pour objectif d'améliorer les pratiques et rendre plus égalitaire l'accès aux soins. Et du côté des usagers et usagères, la connaissance de ses droits en tant que patiente est très importante pour identifier tout problème de discrimination dans la prise en charge. Le dépôt de plainte ou d'un recours auprès des conseils de l'ordre des soignants concernés, de la Sécu ou des agences régionales de santé est un des leviers pour visibiliser et faire reculer ces violences. Les défenseurs des droits peuvent aussi vous accompagner, tout comme les associations d'usagers ou de lutte contre les discriminations. Il est donc primordial que les informations sur comment faire si on est victime de discrimination soient affichées dans tous les lieux de soins ou recevant du public.
Mais ces outils, formations ou recours, s'adressent à des individus, professionnels ou usagers, usagères. Ils tentent de réduire les conséquences de ces discriminations, mais ils ne viennent pas chambouler nos manières de penser le soin. La santé, c'est pas que de la médecine, et pour permettre au plus grand nombre d'être en bonne santé, il faut parfois prendre des chemins de traverse et voir la santé comme un enjeu global. C'est à partir de ce constat que sont nés les centres de santé communautaires. On écoute Virginie, médecin généraliste dans un centre de santé communautaire à Toulouse, nous en parler dans l'émission LSD.
La santé communautaire, c'est une autre façon de faire de la santé. C'est-à-dire que la santé, ça ne va pas seulement être une maladie, un traitement. La santé, elle peut se voir que dans la globalité, en prenant en compte tous les déterminants de la santé, et donc notamment les déterminants sociaux de la santé. Donc ça sous-entend que si on veut agir en santé, il va falloir mettre en œuvre des choses qui ne sont pas seulement médicales, d'où le sens de travailler en pluridisciplinarité, avec accueillants, médiateurs en santé, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, sages-femmes, sans oublier les administrateurs pour pouvoir, bien sûr, nous aider à fonctionner.
Centre de santé, on comprend. Mais pourquoi communautaire ? Parce que ces centres de santé sont implantés localement, à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un territoire. L'idée, c'est que les usagers et usagères du centre de santé soient pleinement impliqués et actifs. Mathilde fait partie d'une équipe qui a ouvert le premier centre de santé communautaire en milieu rural, à Langon, en Bretagne. Un centre de santé communautaire à la campagne. Ça nous a vendu du rêve à la collective. Dans la revue Z, consacrée à la santé, elle raconte. Chez nous, l'accueil, c'est très important. C'est une pratique clinique en soi. C'est une façon aussi de redonner sa place à chaque personne dans cet endroit. Ça transforme le soin, les façons dont les choses se disent, dont elles sont regardées. Il y a aussi des ateliers collectifs avec de la cuisine, de la marche, un projet de jardin. C'est une maison de santé avec un centre social. Vous mélangez les deux ensemble, vous secouez bien fort, et ce qui en sort, c'est un centre de santé communautaire. On vous invite à écouter toute l'émission LSD diffusée sur France Culture, consacrée au centre de santé communautaire. 52 minutes de documentaire qu'on a tenté de résumer en une. Une prise en charge plus globale nous rappelle que les parcours en santé doivent être élaborés pour et par les personnes concernées et que les usagers possèdent leur propre expertise. Cette expertise, elle peut venir enrichir et améliorer les propositions de soins proposées par les équipes soignantes, par exemple dans le cas de la paire aidance.
Alors qu'est-ce que c'est que ça, la paire aidance ? Je vous lis la définition qu'en donne la Maison Perchée, qui est une association de paire aidance, non médicalisée et spécialisée pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. Les paires aidants et aidantes sont celles et ceux qui ont vécu ces expériences douloureuses et uniques dues à la maladie, mais qui sont aujourd'hui bien avancés sur la route du rétablissement. C'est-à-dire qu'ils ont appris, non sans peine, à vivre de manière épanouie avec leurs troubles. Ils ont une compréhension avancée de leur maladie, et au fil du temps, grâce à la distance et au travail thérapeutique, naît un savoir expérientiel.
Moi, je suis père aidant seulement à la Maison Perchée, même si j'envisage de devenir plus professionnel dans pas longtemps. Et donc, en fait, j'ai commencé la père aidance parce qu'une amie m'a encouragé à le faire. Une amie qui est, elle aussi, atteinte de troubles psychiques et qui est, elle aussi, père aidante. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'entraidait sans avoir de formation de père aidant, ni sans savoir ce que c'était, avant de commencer la père aidance. On s'appelait quand on n'était pas bien le soir, et voilà. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et maintenant, du coup, à la Maison Perchée, je fais à la fois des nids et des perchoirs. Donc, les nids, c'est des formats 1 et 1, c'est-à-dire un écouté, un écoutant. Et sinon, les groupes de parole, comme les perchoirs, ça se fait sur 3 mois, tous les 15 jours, avec 6-7 personnes qui sont là et 2 co-animateurs, père aidant. Moi, j'apprends des choses tous les jours en faisant des nids. Et en même temps, j'ai quand même la sensation d'aider la personne qui était là pour ça à la base. Mais c'est vraiment quelque chose d'un échange, comme disait Lucie, l'horizontal, c'est un partage. C'est trop stigmatisé, les troubles psychiques, donc on n'en parle pas couramment dans notre vie de tous les jours. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important de parler de son soi profond si on veut être bien dans sa vie.
Merci David, ça me parle beaucoup parce que ça parle aussi d'avoir des relations authentiques et pas biaisées avec la personne qu'on a en face, puisqu'on peut parler de ses troubles sans jugement. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans la père aidance et dans ce métier, c'est d'avoir des conversations avec des membres ou des patients de l'hôpital qui disent « mais c'est un truc de ouf, je peux vraiment parler de ça sans jugement, je peux parler de ça, quoi ».
On entendait à l'instant David et Lucille qui sont tous deux pères aidants et aidantes en trouble psy au sein de la Maison Perchée. Et ils étaient au micro de La Perche, qui est le podcast produit par la Maison Perchée et qu'on ne peut que vous conseiller d'aller écouter. Alors on peut être père aidant, on l'entendait, de manière informelle, bénévole, mais aussi exercer cette fonction de manière professionnelle, en se formant. Et certains lieux de soins, comme des hôpitaux de jour, embauchent aujourd'hui des pères aidants. La père aidance, ça existe depuis très longtemps dans le cadre des troubles psy, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres situations. Par exemple, des anciens usagers, usagères de drogue, qui en aident d'autres à décrocher, ou encore des personnes qui ont vécu un cancer ou qui vivent avec une maladie chronique et qui échangent avec d'autres.
Mais quand le problème d'accès aux soins fait système, c'est aussi via le militantisme que les choses peuvent bouger. Dans notre histoire récente, on peut penser à 2 exemples très parlants. On va commencer par le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. Jusqu'en 1975, l'avortement est illégal en France. De très nombreuses femmes décèdent chaque année des suites d'avortements clandestins. À l'été 1972, féministes et médecins militants découvrent la méthode d'avortement par aspiration. Cette méthode inventée aux États-Unis par un militant est simple, pas chère, peu douloureuse et très sûre. De nombreuses militantes se forment. En 1975, l'IVG est légalisée et commence à être pratiquée à l'hôpital. Mais elle coûte très cher, n'est pas accessible à tous, à toutes. Et à l'hôpital, c'est encore la méthode du curetage très douloureuse qui est pratiquée. Une sage-femme et militante raconte. Dans le MLAC où j'étais, c'était surtout des enseignantes, institutrices ou professeurs, toutes volontaires, qui pratiquaient les avortements. On n'était que 2 à être du milieu médical, une infirmière en psychiatrie et moi. On se séparait en 2 groupes de 5 femmes pour environ 10 avortements par semaine. On utilisait une pompe à vélo montée à l'envers. Au lieu d'insuffler de l'air, on aspirait et c'était relié à un manomètre de manière à évaluer précisément la puissance d'aspiration du vide dans le bocal. Les femmes qui avaient le plus de pratique apprenaient aux autres. Chacune d'entre nous était chargée d'une tâche. S'occuper de la bouteille, masser la femme, porter la mallette avec tout le matériel, nettoyer, etc. Même en n'étant pas des gens experts, on obtenait quand même des résultats 100 fois meilleurs qu'à l'hôpital. Et c'est finalement cette méthode qui a été adoptée à l'hôpital public.
Un autre moment fondamental dans la réappropriation des enjeux de santé par les malades, c'est évidemment celui de l'épidémie de sida dans les années 80. Les associations de lutte contre le VIH, souvent portées par des personnes directement concernées, ont joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques et le développement des traitements. Quand l'épidémie débute, la médecine n'a aucune réponse à la maladie, mais stigmatise ultra-violemment les malades. En réponse, ces derniers se forment sur le VIH, en lisant par exemple collectivement sur la recherche en cours. Des associations se créent, dont ACT UP, qui par son activisme va contribuer à accélérer la mise à disposition des traitements.
Et enfin, pour terminer l'émission et s'ouvrir quelques perspectives, on avait envie de vous raconter une dernière histoire. Moi, en ce moment, je lis surtout des trucs qui parlent de gestes ou de mouvements de résistance du passé, plus ou moins proches. Souvent, ça me redonne un peu d'élan pour militer. parce que c'est pas évident de se convaincre de l'impact de nos actions quand on regarde au présent, et ça fait du bien de voir ce qui laisse des traces sur le long terme. C'est ce qui s'est passé quand j'ai relu l'article de Claire Richard sur les Young Lords pour préparer l'émission. C'est un extrait de son livre, Young Lords, histoire des Black Panthers Latino, 1969-1976, extrait qui a été publié dans la revue Panthère Première, et ça commence comme ça. Juillet 1970, South Bronx, New York, 5h30 du matin. L'hôpital Lincoln fonctionne au ralenti. Soudain, un camion entre et se gare devant la Nurses Residence, un bâtiment administratif. Les portes arrière s'ouvrent et des dizaines de jeunes gens en descendent. Et elles ne portent pas de blouse blanche. Ce sont des militants et militantes des Young Lords, un mouvement nationaliste révolutionnaire portoricain inspiré des Black Panthers. Sont venus avec elles eux quelques travailleuses de santé et internes engagées. Très vite, sans rencontrer d'obstacles, elles prennent le contrôle du bâtiment. Quelques heures plus tard, une conférence de presse est organisée pour annoncer la nouvelle. Les Young Lords, un parti ayant moins d'un an d'existence, occupent l'un des principaux hôpitaux du Bronx.
À l'origine de cette occupation, nous explique l'autrice, il y a la mort d'une patiente venue pour un avortement. C'est un énième cas, symptomatique de l'état catastrophique de cet hôpital. Les Young Lords sont des militants militantes de la diaspora portoricaine, principale communauté de la côte est des États-Unis dans les années 70. Et elles luttent autant pour l'indépendance de Porto Rico que pour l'amélioration des conditions de vie de leur peuple. Expression désignant la communauté portoricaine, mais plus largement la population pauvre et racisée.
Leur but avec cette occupation, c'était de frapper un grand coup et porter les revendications suivantes. Arrêt des coupes budgétaires et maintien des emplois, construction d'un nouvel hôpital, mise en place de soins préventifs en porte-à-porte adaptés à la communauté, possibilité pour elle, la communauté, d'exercer un contrôle plus grand dans l'administration de l'hôpital. Pendant que se déroulent les négociations avec cette dernière, nous dit Claire Richard, des membres du parti organisent une crèche, installent une table pour recueillir les plaintes des patients et patientes. L'occupation proprement dite dure moins de 24 heures. Elle n'entraînera pas la réorganisation profonde espérée, mais elle attire l'attention des médias et devient un symbole de ce que les Young Lords défendent et pratiquent. La santé n'est pas le domaine réservé des experts et des médecins issus des classes dominantes, c'est une question politique qui doit appartenir au peuple. Depuis leur création et en s'inspirant beaucoup de ce que fait déjà le Black Panthers Party, les Young Lords mènent des actions directes et ambitieuses dans le domaine de la santé. Dès l'automne 69, les Young Lords commencent des actions de dépistage gratuit du saturnisme. Dans un des hôpitaux, des étudiants et étudiantes en médecine très politisés et radicaux-radicales soupçonnent l'existence d'une épidémie. Elles contactent les Young Lords pour leur proposer de mener ensemble des opérations de dépistage en porte-à-porte. Les étudiants et étudiantes apprendront aux militants et militantes à utiliser les seringues. En retour, ces dernières leur permettront d'accéder à la communauté dont elles ont la confiance.
Un journaliste militant travaillant pour Village Voice, un journal très populaire, publicise leur action et déclare qu'elles font le travail de la mairie, qui devrait assurer elle-même la prévention. Cela tombe bien. La nouvelle chargée de la santé pour la ville est sensible au problème de l'intoxication au plomb. Elle s'appuie sur le scandale créé par les Young Lords pour faire modifier le New York City Code. La substance est désormais interdite dans les peintures et les propriétaires qui ne remplacent pas les peintures dangereuses peuvent être punis. En 1970, un bureau de contrôle du saturnisme est mis en place. Cette campagne reste une des victoires les plus durables des Young Lords.
Leurs actions visent donc à avoir un impact direct et concret sur les conditions d'existence. Et investir la santé, c'est aussi un moyen de politiser. C'est un domaine qui peut servir de prisme pour aborder de façon très terre-à-terre les questions systémiques plus larges. C'était quelque chose de concret, qui avait du sens pour les gens. Nous pouvions montrer comment leurs problèmes de santé étaient le produit d'un système cupide et raciste. Nous ne méritions pas nos maladies, nous n'étions ni bêtes ni irresponsables, c'était le système qui nous rendait malades. La santé, comprise ainsi, permettait aussi de parler d'alimentation et d'environnement. Si vous leur démontrez que tout est lié, que les enfants qui ont faim mangent du poison parce qu'ils avalent la peinture qui tombe des murs et que c'est ça qui les rend malades, affecte leur cerveau, puis leur comportement et leurs résultats scolaires, là, elles commencent à vous écouter, explique Pablo Guzman, un des membres fondateurs des Young Lords.
Donc voilà. Préparer cette émission, ça nous a donné envie de réfléchir plus concrètement à ça. Comment agir sur le terrain de la santé, à la fois parce que les besoins sont croissants et qu'on ne peut visiblement pas compter sur des politiques publiques émancipatrices aujourd'hui. Et puis parce que c'est un endroit à partir duquel lutter plus largement ensemble. Un endroit qui nous invite aussi à réfléchir, par exemple, à l'accès à une alimentation saine et vertueuse pour toutes et tous, à l'inégale exposition aux risques environnementaux, etc. Alors, avis aux intéressés. Et on vous dit à dans 2 mois, où on parlera éducation à la vie sexuelle et affective dans la prochaine émission.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit « Mais la révolution fera le ménage ».